Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero au micro. Cette semaine dans Escale, Islam, religion de paix et de tolérance. Nous allons à la rencontre de Thierno Ass Diallo, le ministre des Affaires religieuses et du culte du Mali, s'est récemment rendu au siège de l'ONU à New York pour témoigner devant le Conseil de sécurité de l'expérience de son pays avec le programme de formation d'imams en islam authentique offert par le Maroc. Il revient sur les idées derrière cet islam malikite et démentit les courants de l'islam extrémiste dont témoigne notre globe. Bonne écoute. Avec la montée des courants de l'islam violent takfiri, dont le groupe armé État islamique en Irak et au Levant et les combattants terroristes étrangers qui l'accompagnent, la communauté internationale s'est dotée cet automne d'une résolution du Conseil de sécurité pour lutter contre les combattants terroristes étrangers et les courants extrémistes qui les entraînent. Au-delà des ripostes armées ou financières, la résolution prévoit un volet de prévention. C'est dans cet esprit que le Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité a tenu une session spéciale mettant en exergue le programme de formation d'imams du Maroc. Ce programme de formation prône un islam ouvert et tolérant, ancré dans l'histoire commune de la région et le malikisme. En septembre 2013, le Mali et le Maroc ont signé une convention prévoyant la formation de 500 imams maliens. Le ministre des Affaires religieuses et du culte du Mali s'est rendu à l'ONU pour en témoigner. Thierno Ass Diallo revient sur le programme et raconte ses attentes de la réunion avec le Conseil.
Nous pensons que ce serait pour une fois salutaire de comprendre que la lutte contre les extrémismes ne passe pas uniquement par des stratégies militaires, mais qu'il faudrait une dimension religieuse à prendre en compte et qu'encore pour une première fois, il y aura une déclaration solennelle d'État-nation islamique pour dire non, l'islam n'est pas la violence et l'islamisme n'est pas l'islam. J'ai l'habitude de le dire, pour moi, l'islamisme c'est un courant de pensée idéologique qui crée une confusion d'amalgame et qu'il faut s'éloigner de ce prisme. Quand une religion dit « laissez à chacun le choix de sa foi », quand une religion dit en son premier terme « Assalamu alaikum »« Que la paix soit avec vous », alors cette religion ne peut pas prôner la haine. Et vous savez, moi j'aime bien cette phrase de Jean-Paul II qui disait que « Aucune religion ne peut se vanter d'avoir le monopole de la violence ».
Alors justement, il s'agit d'essayer de contrer ces courants extrémistes. Comment est-ce que l'on peut faire pour éviter qu'il y ait de l'adhésion à ces courants extrémistes ?
Alors, je crois que c'est simple, il faut retourner à l'islam authentique. L'islam authentique, c'est cet islam qui nous fait comprendre que notre prophète, paix sur lui, a vécu avec des chrétiens à la Mecque et qui n'a jamais pris des fouets pour leur dire « convertissez-vous ». Qui a vécu avec des juifs à Médine, qui a fait des contrats avec eux et qui n'a jamais dit aux juifs « convertissez-vous ». Alors, donc, c'est le mieux vivre ensemble. C'est l'acceptation du droit à la différence. Alors, il faudrait donc appuyer, pour y revenir donc à cette coopération, à la politique de ces États dont l'histoire et la tradition s'appuient sur un islam authentique de tolérance, de meilleur vivre ensemble. C'est ce que nous appelons la Malikia, les Malikites, où vous avez cette liberté totale qui tient compte non pas seulement des principes, mais aussi des spiritualités. Et donc, c'est de nous appuyer, d'appuyer ces États, comme le mien, comme le Maroc, et d'appuyer cette coopération et cette chance aujourd'hui que le Maroc nous donne. La formation des 500 imams, dont 100 par année, la construction d'un institut dédié à cela, le mille que cela fait, la Guinée, le Sénégal bientôt, la Côte d'Ivoire, etc. Donc je crois qu'il s'agit de faire connaître au reste du monde qu'il y a un bastion ouest-africain d'islam tolérant, ouvert, et qui a une bonne coopération avec le Maroc, et qui n'est pas une coopération de conquête, hein, c'est une coopération de retour de présence. Parce que nous avons connu historiquement l'islam à travers le Maroc. Et donc voilà ce lien historique et sincère qui nous lie à ce pays, et qui fait que nous ne nous voyons pas changer quand nous sommes avec ce peuple.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce programme marocain va être appliqué au Mali ?
Ben écoute, ça a commencé à être appliqué. Déjà, on a 106 qui sont au Maroc. Lorsque vous voyez le contenu de cette formation, j'aurais envie, si je n'étais pas à ces fonctions, de m'y retrouver. Parce que c'est un cours parfait où les auditeurs, d'abord jeunes, ont une prise en contact de l'ensemble des religions monothéistes. Donc une ouverture d'esprit et de compréhension de l'autre. Parce que pour mieux parler de l'autre, il faut le connaître et le comprendre. Donc il y a ça, vous avez des cours de communication, des cours d'histoire, des cours de droit, de comment organiser les prêches. C'est un peu tout ça, le contenu de ce programme. Alors donc ces 100 premiers imams, ils sont là, c'est des jeunes. Pourquoi des jeunes? Parce que nous pensons que c'est la jeunesse qui doit assurer la relève. Et les religions étaient portées pour la plupart par le jeune. Hein? Ça, je ne vous le dirai pas, Jésus est dans le christianisme. Alors, donc, la jeunesse, c'est cela. Et aussi, puisque c'est des imams qui auront un corps de métier, parce qu'ils seront formés professionnellement aussi par les Marocains, désormais, nous donnerons une autre image de l'islam, de l'imam aussi chez nous. En plus de ça, nous sommes en train de voir aussi pour les prochaines dernières formations y adjoindre un petit groupe de femmes. Hein, parce que nous pensons aussi que les femmes ont leur part dans cette formation, dans la perpétuation des valeurs pacifistes et des valeurs de tolérance dans l'islam.
Alors, vous comptez inclure un groupe de femmes par rapport à leur rôle en tant que mère?
Évidemment, par rapport à leur rôle en tant que mère. Mais en réalité, vous savez, la femme, c'est l'élément central du foyer. Hein? En tant que mère, donc, pour mieux faire passer ce message, pour qu'il soit perpétué, encadrer les enfants donc, qui grandiront avec ce message de pardon, d'amour et de tolérance, mais aussi jouer sur la sensibilité de leur mari, évidemment. Parce qu'on se rend compte que le rôle de la femme, surtout dans la culture musulmane, contrairement à ce qu'on peut penser, est très central. Et donc il serait bon que nous puissions avoir des femmes formées qui pourront prêcher, orienter les futures mères, encadrer les enfants, afin que soit perpétué cet islam de nos ancêtres.
Mais l'on voit dans les courants plus extrémistes, en fait, un rôle qui n'est pas du tout celui que vous décrivez pour la femme, quand même.
Oui, mais c'est cela, en fait, c'est déplorable, c'est déplorable. Il faut dire les termes, le djihad sexuel. Il faut dire les termes. Moi, j'étais à Bruxelles. J'ai vu combien d'appels d'enfants qui se sont enrôlés pour être en Syrie. Je me dis, franchement, lorsque vous imaginez que le prophète de l'islam, son premier compagnon, donc sa première compagne dans cette foi, c'est une femme. Hein? Et le respect donné à la femme et son rôle, parce qu'il a été dit, c'est-à-dire que son rôle dans la stabilisation du foyer est tellement connu que, en fait, lorsque certains se sont plaints qu'ils n'ont pas eu d'enfants garçons, le prophète leur a dit, paix sur lui, c'est une chance que d'avoir des filles. Évidemment, les déviations font qu'au lieu d'utiliser cette aura mère, femme, pour mieux pacifier le foyer, pour mieux orienter les enfants, évidemment, et pour des considérations plus ou moins déviantes. Hein, on voit donc les femmes encouragées à faire le martyr pour leurs enfants, etc. Or, en réalité, la djihad, elle est terminée avec le prophète. Quand on nous dit, ne vous attaquez même pas aux idoles de ceux qui ne croient pas, afin qu'ils n'insultent pas votre Dieu, car vous croyez en le vôtre, et donc vous aurez à réagir mal, et ça va créer la tension. Or, la colère et la violence ne sont pas musulmanes. Alors donc, on ne peut pas être baigné de cet esprit, et prôner la violence, prôner la vengeance. Vous savez, quand le prophète de l'islam, avant d'être victorieux à Taïf, lorsqu'il était pour faire son message, les gens de ce village de l'époque l'ont frappé, ils l'ont torturé. Selon les dits, le sang a coulé de la plante de ses pieds jusqu'à lui coller ses chaussures. Mais lorsque l'islam a triomphé et qu'il est revenu à Taïf comme prophète, les éléments fidèles à lui avaient fait prisonnier certains guerriers de Taïf. Il leur a dit de les libérer. Ceux-ci ont refusé. Il dit, je vous paye, je vous rançonne pour que vous leur donniez leur liberté. Voilà des preuves. Et là-dessus, vous avez Virgile Georgie qui a un très bon livre sur le prophète Mohamed. Et là-dedans, pas moins de 7 fois, il dira « L'humanité ne connaîtra aucun homme de pardon plus que le prophète de l'islam. Hein? » Alors donc, je crois que tout est fait.
Dans la partie nord du Mali, ou quelle est en fait la stratégie?
Non, en fait, nous, c'est une sélection nationale. Hein. Vous savez, on n'a pas cette vision limitative des nord du Mali, sud du Mali. Nous, c'est des prismes que vous avez au dehors. Hein. Nous, au Mali, moi, je vais à Tombouctou, je vais à Gao, peut-être Kidal seul pour l'insécurité. Nous ne sommes pas dans ces trucs carrés, nord, sud, non. Hein.
Il y a quand même des pourparlers dans lesquels on parle de deux États fédérés, à Azawad et...
Bon, vous savez... Comprenez. Vous savez, moi j'ai dit aux gens, les grandes nations se construisent dans la douleur. Les États-Unis, il y avait le Nord, le Sud, la guerre de sécession. Hein. C'est pas la fin du monde. Vous avez l'Irlande, hein, Belfast. Alors voilà, à présent, les quartiers sont séparés par des grillages. Hein. Bobby Sands est mort dans la grève de la faim. Thatcher ne l'a pas écouté. C'est des choses qui sont là, qui s'expriment. Et je crois que le temps dira comment faut-il aller avec, quel choix faut-il faire. Mais je pense que pour le moment, je suis sûr qu'à l'interne, le courant indépendantiste, autonomiste est très mineur. Mais c'est une expression. Mais ce que je dis tout le temps aux uns aux autres, le meilleur cadre d'expression des revendications se trouve dans la liberté. Dans la démocratie. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'on fasse des orphelins, qu'on fasse des veuves, qu'on détruise des maisons pour des revendications de ce genre qui peuvent être travaillées politiquement par des députés, des élus. Il faut croire autant. Et donc, moi, je crois autant. Je crois qu'il ne faut pas penser. C'est un peu ça le problème de l'Occident, à croire que quand ça vient de nous, c'est normal ou c'est pas normal, mais que bénéficie du droit au doute. C'est cela, voir les choses en linéaire. Hein? Voilà, c'est cela. L'Allemagne était divisée, elle s'est retrouvée. Donc pourquoi penser qu'on doit se diviser quelque part? Moi je crois, l'Union européenne, qu'est-ce que ça cherche? C'est l'Union de l'Europe. Alors, comment voudriez-vous qu'on encourage des velléités séparatistes? Encore que dans cette région de chez nous, nous ne sommes pas un État où les choses sont segmentées en ethnies, non. C'est un brassage total parce que c'est une terre de grands empires. Et ces grands empires se sont succédés, donc il y a eu un mouvement interne. Et donc, quelqu'un du Sud s'est retrouvé au Nord, il ne parle plus la langue du Sud. Quelqu'un du Nord s'est retrouvé au Centre, il ne parle plus la langue du Nord, etc. Les mosquées d'Ingira Ibère, ça n'a pas été construit par des Arabes ou des Touaregs. C'est par un Mansa du Mandé, noir, Kankou Moussa. Hein? Et ça, c'est important qu'on le sache. Quand vous prenez toute la région de cette partie, le grand lac Faguibine, ça ne vient pas de l'arabe ni du Touareg. Ça vient du Soninké, qui veut dire le lac à l'eau noire. Hein? Les villes qui font descendre le nord jusqu'à Mopti, Douanzan, Korianzin, c'est purement du dialecte Bambara du Sud. Et vous avez même de grands villages dans le nord qui s'appellent Bambara Maoudi, hein? C'est-à-dire le lieu des Bambara, les grands Bambara. Donc, pour vous dire qu'au Mali, franchement, nous nous sommes étonnés qu'il y ait cette omerta sur les esprits, voir la presse, comme pour croire que nous sommes dans une logique de Soudan du Sud, du Soudan du Nord. Et vous voyez le résultat que ça fait déjà là-bas. Donc je crois que ne précipitons pas l'histoire. Nous comprenons ce qui s'est dit pour le Nord, mais je vous assure que vous avez des villages dans le Sud qui n'ont pas d'eau à boire, qui n'ont jamais eu d'électricité. Et que quand les velléités séparatistes commençaient au Nord, c'est l'Union européenne déjà qui avait entamé le financement de projets à plus de 10 milliards d'euros qui devraient commencer. Et la Chinois avec le plus gros barrage, le barrage de Taoussa. Alors donc, je me dis, le développement se fera, mais ça se fera selon les moyens de l'État. Une ville comme Kidal dont on parle, mais c'était une ville pénitentiaire il y a 20 ans. Il n'y avait qu'une prison. Kidal était symbolisée par la dictature militaire. Alors, c'est la démocratie, après les événements de 91, la révolution populaire, qui a fait de Kidal une ville, qui a fait de Kidal une cité, hein, qui a fait vivre Kidal en ville, en département, en région. Alors donc, je crois qu'il faut aller à tout ça. Mais moi, je vous dis franchement, Voltaire le disait, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai au bout jusqu'à ce que vous le dites. Alors, voilà. Hein, donc, c'est cela. Les gens, quel que soit leur nombre minoritaire, ont droit à s'exprimer. Mais désormais, nous souhaiterions qu'on ne prenne pas la vie d'une nation en otage, qu'on ne prenne pas la vie d'une communauté en otage, mais plutôt que l'on vienne dans un débat démocratique, user du processus démocratique pour accéder à ses fins. Vous avez vu, avant-hier, l'Espagne, la Cour suprême a annulé le projet de référendum. Mais voilà, mais il était là. Et voilà, c'est cela, les nations civilisées. Quand un peuple, comme dirait Stanislas Adotevi, ce dont nous avons besoin, c'est de foutu et d'acheke. Ce n'est pas des armes, ce n'est pas se tuer. Tout peut se dire dans la démocratie. Consolidons la démocratie. Et consolidons la démocratie pour qu'il y ait le développement. Et laissons le vrai peuple choisir. Et cessons d'être porte-parole, porte-étendard, comme si le peuple est analphabète. Je pense qu'aujourd'hui, vous faites un référendum dans la région dite du Nord, vous aurez moins de oui pour l'indépendance.
Et c'est avec Thierno As Diallo que se referme cette édition d'Escale, Islam, religion de paix et de tolérance. Escale, le magazine hebdomadaire de la radio des Nations Unies, vous a été présenté cette semaine par Christina Silvero avec la collaboration de Priscilla Lecomte. Merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence.